dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier. Aujourd'hui, nous rediffusons une émission qui date de janvier 2016. Elle était consacrée à Christian Rago, un designer hors norme.
Depuis ce 20 septembre 2022, l'étoile de Christian brille dans le ciel. Comme l'écrit Marie Prêcheur, c'est une étoile qui a sûrement une forme bien à elle.
D'une certaine manière...
François Barré, ancien président du centre Georges Pompidou à Paris.
Il était une boussole, il était quelqu'un qui, par rapport au droit chemin, des convenances et de la normalité, signifiait toujours que le centre devait être à la marge. Donc, alors, si vous voulez, Christian Rago, il est beaucoup plus qu'un designer. Il est un personnage qui n'a jamais été marchand, qui, d'une certaine manière, n'a cessé d'explorer le savoir. Il a commencé par un CAP d'ébénisterie, il a fini à l'Institut de l'Environnement, au Conservatoire National des Arts et Métiers, il s'est occupé d'ergonomie, d'urbanisme, d'architecture, il a travaillé à Bordeaux avec Salier Lajus Courtois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était à la fois dans l'amplitude d'une observation de ce que sont nos territoires de vie, mais en même temps dans une observation de ce que sont les observatoires de les territoires de la création. Et dans son goût du détournement et de la non-séparation de la vie privée et du travail créatif, il était quelqu'un qui avait quelques connivences avec Marcel Duchamp dans le détournement et dans une sorte de capacité à être une vie qui apparaisse comme un prototype, c'est-à-dire comme anticipant ce que devraient être les développements du design dans une société qui ne serait pas marchande, mais qui serait une société d'apprentissage de ce que sont les modes de vie à venir. Et donc j'ai toujours trouvé qu'il y avait dans cette espèce de manière à la fois détaché et extraordinairement engagé du travail de Christian, quelque chose qui conjuguait l'amitié, l'engagement, l'amitié du côté de Charlie Hebdo, de l'admiration amicale qu'il avait pour Cabu, mais aussi de déni, d'une certaine manière, de ce que sont les carrières, de ce que sont les compétitions, de ce que sont les concours marchands. Il est quelqu'un qui a développé ce que nous devrions être, ce que nous pourrions peut-être devenir, et ce que l'on ne connaît pas de Christian Rago, qui est dramatiquement un grand designer sous-estimé et méconnu, eh bien on va le découvrir le temps auquel il faut du temps pour qu'il révèle les véritables butins. Le temps, un jour, fera comprendre que Christian était quelqu'un qui nous annonçait ce que nous ne voulions pas faire quand nous étions encore prisonniers d'un monde d'inégalité et de compétition.
Enseignant formateur, Christian Rago, par son espièglerie et sa force, a illuminé notre vie d'étudiant, nous apprenant à regarder ailleurs pour que nous enrichissions nos imaginaires, témoignent Marie Prêcheur et Thierry Hosto.
De lui, son ancien élève, Jean-Claude Seifer, dit qu'il est comme l'eau. On connaît sa source, mais on ignore où elle finit de couler et parfois, elle devient souterraine, nuage, pour tomber ailleurs.
Ce que je trouve important dans son design, dans son œuvre,
Nicolas Hérisson, directeur artistique de l'association Piacer le Radieux, Bézard le Corbusier.
C'est son engagement, c'est la part humaine de son travail, son rapport au monde. Et moi, ce qui m'avait impressionné, en tout cas, c'était aussi comment il mêlait le design, l'art, la poésie. Enfin, ce mélange assez subtil qu'il opère. Alors voilà, il s'inscrit forcément dans une époque qui est les années 70. Mais je pense que sa vision, en tout cas son travail, comme je disais, sans compromis, c'est jamais... En fait, il a très peu édité. C'est souvent des pièces prototypales que je trouve totalement en accord, en tout cas avec son époque, d'un point de vue aussi d'écologie, encore une fois de l'engagement. Quand j'ai vu ces prototypes, j'ai trouvé ça d'une grande force. Et puis on lui avait fait une proposition de faire quelque chose pour Piacer. Et donc il a dessiné une voiture de Le Corbusier en osier. Donc je pense à travers cette pièce, ça reflète son travail, c'est comment il réinterprète aussi quelque chose. Il sait s'adapter, c'est-à-dire qu'il la retraduit en vannerie. Mais c'est pas un travail de musée non plus. C'est vraiment qu'il y a intégré des gens, quoi. Il a intégré les enfants du village dans cette œuvre en leur demandant de collecter des canettes de Coca-Cola et de les écraser. Donc en faisant référence, bien sûr, à la société de consommation, en opposition à l'artisanat, voilà, et aux œuvres de... Voilà, donc pour moi, c'est vraiment cette intelligence dans un moment donné et dans une époque.
Refusant les chefs, abhorrant le conformisme, détestant le pouvoir, il a été un designer indépendant, toujours guidé par l'éthique et le refus d'être instrumentalisé. On peut encore revoir ses créations au Centre Pompidou, à Paris, au Musée des Arts de Piacer le Radieux, mais aussi ici, à Mont-Laure, dans le sud d'Aveyron, chez lui, le lieu où il aimait venir se ressourcer. Nous retrouvons Christian Rago dans les studios de Radio Sainte-Afrique et au micro de Dissonance. C'était en janvier 2016.
Dissonance avec
Christian Rago
sur Radio Sainte-Afrique.
Écoute, moi je suis né il y a fort longtemps, l'année terrible, 1933, l'avènement de qui vous savez. Et tout ça m'a marqué énormément. D'abord par le fait des guerres, bien sûr, la guerre 39-45, avec tout ce que ça comporte. Je vivais chez mes parents en région bordelaise, zone occupée dès le début par les troupes allemandes, bien sûr. Et puis les sévices qui ont commencé sur les populations réfractaires, communistes, etc. Après, les difficultés de mon père prisonnier. Ensuite, bien sûr, les restrictions, tout ce que... Et puis la vie a repris. Et puis, j'ai eu droit aux formations que j'ai pu obtenir du fait que j'étais dans une famille de bâtisseurs, de maçons, d'artisans. Et que les trois frères, mon père et ses deux frères, avaient un artisanat un petit peu en commun de maçonnerie, trailleur de pierre. Et puis mes cousins allaient travailler également avec, et je pressentais que j'allais finir maçon. Donc j'ai cherché plutôt à me former d'une manière théorique et pratique quand même, et j'ai, je dirais, passé mes examens concernant la technologie du bois en tant qu'ébéniste et en tant qu'ouvrier ensuite, pendant 3 ans, jusqu'au régiment. Voilà. Alors j'ai fait une formation théorique, je vous l'ai dit déjà, parce qu'à l'époque ça s'appelait des collèges techniques. Ça avait une formation, on allait jusqu'au bac technique, on passait par le CAP, on passait par le BEI, brevet industriel à l'époque, bac technique. Et puis avec ça, on finissait ouvrier, c'était pas mal quand même. Alors on était dissident par rapport aux ouvriers classiques et par rapport aux apprentis classiques, parce qu'il y avait toujours l'apprentissage chez les patrons, je dirais, des corporations. Et puis nous arrivions un petit peu avec un petit i d'intellectuel de la profession, ce qui crée quelques problèmes, et c'est vrai qu'on n'avait pas la soumission de l'apprenti classique. On arrivait à 17 ans alors qu'eux commençaient à 14 ans, on avait déjà 3 ans de plus pour réagir, et ça paraissait pas simple quand même, voilà, et ça commençait là.
Dissonance avec
Christian Ragot
sur Radio Centrafrique.
Alors le design, c'est définissable sans doute et indéfinissable à la fois, parce que c'est un terme qui, en France notamment, malgré ses origines latines, malgré l'anglicisme que l'on utilise avec la prononciation snobinarde, je dirais, de design, et plus on le parle mal, plus mieux c'est, en fait, le designer, qui vient de dessin, était déjà employé en France, dans le vieux français, sous le terme de designare, et le peintre Boucher, notamment, se définissait comme designare. Donc, si vous voulez, c'est un terme qui enjolive, je dirais, un métier, une profession, une façon d'aborder la production, mais c'est avant tout le design qui est aujourd'hui devenu, à mon sens, un outil servile de l'industrie.
Pour préciser, est-ce qu'il y a des similitudes et des différences entre l'art, l'architecture, le design ?
Oui, il y a des similitudes, il y a des approches, je dirais, communes. Nous sommes déjà, de par l'histoire, inscrits dans les mêmes mouvements. C'est-à-dire que, nous ne remontons pas trop loin, mais l'art nouveau qui fut un mouvement artistique assez important au début du XXe siècle, notamment en France avec l'école de Nancy, mêlé à savoir artisan, ouvrier donc, peintre, sculpteur et architecte. La famille que l'on connaît tous en France de Nancy et qui a marqué l'architecture avec une petite aparté que je vais souligner, à savoir Jean Prouvé, dont le père était peintre et directeur de l'école de Nancy, dont le fils Claude Prouvé a été architecte également, et dont le petit-fils, dont j'oublie le prénom et qui est mon ami actuellement, Prouvé donc, et je vais retrouver le prénom, est aussi architecte, ingénieur chez les Anglais, chez un bureau anglais à Paris. Donc, pour vous dire, ces trois professions, on va dire, ces trois définitions, artiste, architecte, designer, sont, je dirais, nourries des mêmes choses au départ. Ensuite, ils en font chacun ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils peuvent, mais il y a une nourriture commune.
Est-ce qu'il y a une rivalité entre architecte et designer ?
Il y a une rivalité, oui, bien sûr, mais vous savez, dès qu'il y a un intérêt quelconque, il y a une rivalité. Alors, il y a rivalité parce que le métier d'architecte remonte plus anciennement dans la reconnaissance et que le métier d'architecte, en France, et nous n'avons parlé que des problèmes français, le reste c'est trop complexe, problème français, la profession d'architecte a été reconnue au début du XXe siècle, puis confirmée par Pétain. Donc il est important de savoir que le DPLG architecte est une profession notoire, une profession valable à mes yeux, mais qui a une espèce d'assise sociale très forte, avec soi-disant des responsabilités énormes, soi-disant des importances, je dirais, parfois un peu exagérées, et mais surtout aujourd'hui, une possibilité, un rôle de communication extraordinaire.
Est-ce qu'on pourrait dire que le design s'adresse plus aux objets et l'architecture plus aux édifices ?
Oui, dans le principe, c'est ça. L'architecture s'occupe de la domus, la maison, s'occupe de l'urbanisme qui découle des maisons. Il a un sens de l'accaparation du sol et de régir le territoire. Il a tous ces facteurs. Il est très proche, à quelques nuances théoriques et pratiques près, de l'urbaniste. Il est, d'ailleurs, beaucoup d'architectes sont urbanistes, et aujourd'hui beaucoup d'architectes élargissent leurs connaissances et leurs bureaux surtout par le design. Donc il cumule tous ces métiers-là. Pourquoi pas artiste demain ? Mais il y en a même qui sont artistes et qui le prétendent d'autres aussi.
Par rapport à la formation ou à la création, quelle est la part ou le poids des codes établis ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de codes établis dans l'architecture, par exemple, ou dans quelque chose d'utile, qu'on pourrait dire d'utile et de fonctionnel. Et le design qui serait plus la création un peu délirante, enfin un peu plus...
Je pense que l'architecture a une intériorité monumentale. À savoir qu'on retient des architectes les monuments connus, reconnus, qui ont un rôle, je dirais, important dans l'histoire des sociétés, on schématise. L'architecte des maisons, comme tu le soulignes, je dirais, il n'est pas très important à mes yeux, parce que la plupart des gens qui sont dans une maison aujourd'hui, ils ne font pas appel à un architecte, pour diverses raisons. Mais on ne peut pas dire que les architectes formatent la population, pas du tout. La population subit parfois les intérêts politico-sociaux du système où nous sommes, parce qu'on a commandé aux architectes de faire ceci, de faire cela, même s'ils ne sont pas d'accord à 100%, comme, leur monnaie passe par là, et que les commanditeurs, à savoir les politiques, les sociétés industrielles, les patrons, les grandes familles, les châteaux, etc., sont le signe d'un pouvoir auquel on ne peut pas échapper. L'architecte traduit surtout pour moi cela. Je préférerais qu'il traduise ce que tu souhaites, à savoir les maisons, oui. Mais on n'est pas là, hein.
Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit six ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmant et luire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, Ferre, Carousse, Liesse et Bombance, dans ce foutu pays de France, jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups, les loups, les loups, les loups, les loups, les loups, les loups.
Dissonance avec
Christian Rago
sur Radio Centrafrique.
Et le formatage dans le design, il existe aussi ?
Oui, il existe aussi. Là, on est sous notre, je dirais, volet de pouvoir, du pouvoir, parce que le pouvoir est partout. Le pouvoir est en tout. Hein. Le sport, c'est une forme de pouvoir. Et pour le design, c'est du pouvoir. Et tout ça aboutit à l'argent, à la finance, qui est le pouvoir. Donc, si vous voulez, là, on n'en échappe pas. Hein. Alors, le design, oui. Oui, parce que si vous voulez faire du design industriel, comme on l'appelle aujourd'hui, alors qu'en France, je le répète, on a eu du mal à accepter ce mot design. On a même eu, dans les années 80-81, les ministres de la Culture qui ont proposé le mot stylique. C'est pas mal comme terme, mais... Et c'est vrai que nous avions en 1900... Non, oui, fin 1900, nous avions des termes qui étaient esthétiques, industriels, qui apparaissaient, etc. Non, le design est devenu, je dirais, un terme international reconnu par le BOAS. Le BOAS qui a, je dirais que la reconnaissance du BOAS a été faite en 1919 par Walter Gropius. Le BOAS a démarré avec l'école de Weimar, en Allemagne, puis s'est déplacé, Weimar, c'était les années 30, hein, déjà, commencé à sentir l'air nazi, et ensuite, donc, Hitler a déplacé de Weimar à Halle le BOAS, et pour le fermer à Berlin en 1929, en emprisonnant les élèves et en chassant les enseignants, qui sont partis, pour la plupart, aux États-Unis. Voilà, en gros.
Tu nous parlais de Léonard da Vinci comme un des premiers designers.
Oui, j'ironisais un petit peu avec mes étudiants, surtout moi, quand on parlait du début du design, remontait pas très loin, mais c'était des étudiants, ils étaient en pleine mutation. Et je dirais, moi je m'amusais à leur dire, pour moi le premier designer c'est Léonard de Vinci, parce que Léonard de Vinci, ce peintre génial, a fait également des machines, il a fait des trucs, et puis quand on va dans le Val-de-Loire et que l'on visite le château où il a fini sa vie, on trouve un musée de mécanique extraordinaire. Donc entre la voiture et l'avion, le Vinci est passé avant.
En 70, j'ai lu que Christian Rago confirmait une approche sociale et critique du design. Ses productions signent un design d'auteur empreint d'une pensée écologique. En quoi le design est politique ? En quoi le fait de dessiner une fourchette ou une cuillère, c'est un acte politique ?
Oh mais, pour aller vite, en ce qui concerne l'objet de la fourchette, c'est un objet très simple que tout le monde connaît. Et en quoi je l'ai chargé de politique ? Avec un petit P, je dirais plutôt polistique, c'est un terme qui n'est pas reconnu dans le dictionnaire, je crois, mais qui l'on utilise en urbanisme et en architecture. Alors, je prends cet exemple du couvert. On va généraliser fourchette, cuillère, couteau, couvert, en l'ensemble. Et j'en ai dessiné une série dans les années 1995. Alors, je me rappelle, c'était un travail avec les étudiants. Ils avaient été séduits à l'époque par, je dirais pas la marque, une marque qui développait des couteaux en France, avec un tas de problèmes entre deux régions. Les étudiants, emballés par ce travail d'un confrère passionnant, on dit, comme sujet, on aimerait bien travailler sur les couverts. Ok, puisque vous voulez travailler, on va y travailler. Alors moi, je vous propose que vous allez travailler d'un côté et moi de l'autre. Et on va voir le résultat au bout. C'est-à-dire que je me mesurais à mes étudiants, ce qui me paraissait un petit clin d'œil sympathique. Alors, bon, ils sont partis sur leur couteau, sur leur fourchette, machin. Et puis moi, de mon côté, je dis... Et puis, toutes les semaines, on arrivait, je regardais ce qu'ils avaient fait, je leur disais, rassurez-vous, je ne m'inspirerai pas de votre truc, je fais autre chose. Et puis, voilà. Donc, on a comparé ensuite le résultat, et on est arrivé à des choses totalement différentes. Alors, pour eux, le couteau, le couvert, c'était de la séduction. Ils se trouvaient dans un système de concurrence avec des marchands de couteaux, avec des marchands de couverts, et ils rivalisaient en proposant des choses qui ressemblaient quelque part, soi-disant en mieux, mais c'était pas certain, aux produits existants. Moi, de mon côté, je leur ai proposé, j'ai amené le projet. Et en quoi il était différent? Il était différent que couteau couvert, c'est fait pour manger, donc effectivement, il n'y a pas grand-chose à apporter. Mais j'avais différencié la forme de certaines manières, ça c'est pas important. Mais j'avais surtout finalisé, pour moi c'était le but, le couteau qui me paraît être une arme, car j'ai dans le fond de ma tête... L'idée suivante, c'est que le design, c'est d'abord du fonctionnel, et que, je dirais, compte tenu de mon expérience personnelle, tout ce que j'ai trouvé de plus fonctionnel, malheureusement, c'est l'armement. Quand on vous fout un fusil dans les pattes, il marche parfaitement. Quand on vous habille, vous avez le minimum qu'il faut, etc., etc. Donc, l'armée, le militaire, c'est du design parfait. Et en cela... Ça me fait un peu mal quelque part. Donc, le couteau, je faisais une arme, et en cela, j'ai inversé le mouvement du cran d'arrêt pour ne pas pouvoir tuer quelqu'un. À savoir que sous l'impulsion du manche, je déclenchais le retrait du cran d'arrêt. Et c'est en cela que j'avais varié par rapport à mes étudiants. Voilà, ça c'est politique.
Pour rester sur la fourchette, parce que ça parle à beaucoup de gens, au Moyen-Âge, donc, il a bien fallu quelqu'un que tu peux appeler styliste ou designer, qui a inventé cette espèce d'outil à deux pointes pour prendre son bout de viande, puis après à trois pointes, à quatre pointes. Et ça, tu penses que ça peut encore évoluer? Alors on est arrivé au maximum du design pour la fourchette?
Non, on n'est pas arrivé au maximum du design pour la fourchette, parce que ce serait prétentieux ou visionnaire de dire cela. Non, les produits évoluent par... la culture particulière, parfois orientée, déformée des créateurs. Les créateurs, la création n'est pas réservée uniquement, la création des maisons, la maison des objets n'est pas uniquement réservée. Tout le monde peut inventer une chose, ce sont des inventeurs, et pourquoi on ne reviendrait pas aux inventeurs? Moi ça ne me gêne pas. Les nouveaux matériaux qui arrivent formulent d'autres idées. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement constant, permanent, enrichissant, qui fait qu'il y a une évolution en train et que nous la percevons ou nous la subissons.
80 inviernos pasaron y otros miles pasarán. Mientras los campos florezcan, las heridas sangrarán. Y aquellas pisadas rojas que fueron a encarcelar se escurrieron con el viento, ya se vuelven a escuchar. 80 inviernos pasaron y otros miles pasarán. Mientras los campos florezcan, las heridas sangrarán.
Dissonance avec
Christian Rago
sur Radio Centrafrique.
Tout à l'heure, tu as évoqué Walter Gropius, qui disait notamment « la forme doit obéir à la fonction ouais. ». Peux-tu me parler de ce Walter Gropius, qui n'est pas très connu, en tout cas, dans le milieu, qui n'est pas le milieu des designers,
quoi. Non, mais bien sûr, déjà, c'est un architecte allemand qui a vécu, je l'ai dit, dans le début du 20e siècle, pardon, et dont on retient effectivement qu'il a été l'initiateur d'une religion, entre guillemets, qui est devenue le design. Le Bauhaus, ça a marqué des générations d'architectes, bien sûr, depuis cette période-là. Et ça a été, à mes yeux, à part quelques mouvements anglais, à part quelques mouvements scandinaves, qu'on n'a pas aussi bien perçu que le Bauhaus, qui, lui, a bénéficié d'une certaine, je dirais, reconnaissance et une certaine publicité par les événements en Allemagne. Et il ne faut pas oublier que Hitler était de formation Beaux-Arts. Hein. Hitler a été un peintre, mauvais peintre, mais il a terminé par une petite architecture qu'il a proposée dans les années 30. Ça n'a pas marqué. D'autres choses d'Hitler nous ont plus marqué. Et en ce qui concerne Walter Gropius, ces architectes n'ont pas collaboré au sens où on devrait, je dirais, le penser. C'est pas vrai. Mais néanmoins, ils ont été, je dirais, presque obligés, compte tenu de leur fonction, compte tenu de leur rôle, je ne juge pas, d'être mêlés à cette histoire. L'avènement du nazisme n'est pas arrivé comme ça. L'Allemagne, ce pays, je dirais, florissant, ce pays de personnes formidables, de philosophes remarquables, s'est quand même laissé embobiner par une espèce de petit cabot. Alors, ces personnalités, comme Gropius, comme d'autres, ont été mêlées de loin, mais ont été mêlées quand même à cela.
Donc Gropius, tu l'assimiles un petit peu à Albert Speer, à tous les gens qui ont travaillé avec Hitler?
Non, pas au point de Speer. Speer a travaillé pour Hitler. Gropius, mais il gérait le Bauhaus de quand même de 1920 à 1920. Il a été automatiquement. J'ai visité le Bauhaus. Je suis allé en Allemagne voir ça. J'ai visité une ancienne usine électrique où j'ai trouvé des traces de certains confrères designers, bien sûr, qui avaient essayé de collaborer avec les industriels de l'époque. Mais aujourd'hui, quand on travaille autour de l'aviation, autour de Dassault, autour de tous ces gens-là, des designers font état de cette actuellement. Et qu'est-ce qu'on fait? On vend des armes à droite, à gauche. Mais on fait la même chose. Nous ne sommes pas vierges. Hein. C'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, j'ai essayé de me marginaliser. Dès le début, j'ai compris où était le design. Dès que j'ai monté mon premier bureau, j'avais travaillé en agence pendant 10 ans. J'avais vu les achoppements auxquels on pouvait, je dirais, être accroché. Et j'ai dit non, je vais travailler, mais je vais travailler indépendant et en marge du design. Je vais dire, ce qui m'intéresse dans le design, ce ne sont pas le noyau de mes confrères qui eux font ce qu'ils veulent, ce sont les périphéries de mon métier et les métiers annexes. Et je suis allé voir les métiers annexes, photographes, etc., etc., pour percevoir des choses que nous n'avions pas dans nos connaissances.
Tu as plus été guidé dans ton parcours professionnel par une éthique que par un parcours marchand?
Non, pas du tout. Je refusais des travaux, moi. Je refusais certains travaux. Donc, je détournais la question. Je prends un exemple où j'ai détourné la question plusieurs fois, mais on va y revenir. Je prends le cas d'une exposition à laquelle on m'appelle et on me demande de participer à une exposition à Paris. Et l'exposition, c'était en 1975-76, je ne me rappelle plus. J'avais travaillé, parce que j'ai eu la chance de travailler l'un des premiers en Italie dans les années 70-71. À côté de Milan. Et je travaillais pas mal à Cantu avec un groupe de j'étais capogruppo, qu'on appelle en italien, le chef, un chef modeste. Et j'avais des collègues avec qui on travaillait pour les Italiens, et je crois que c'est une des premières expériences de Français en Italie, à ma connaissance, de Français en période récente. Comme disait, tu as travaillé en Italie, Christian, tu as fait des rangements, tu as fait des trucs. Est-ce que, bon, oui, bien sûr, je vais y participer à l'exposition, vous pouvez compter sur moi, ta. Donc, échange prix, et puis contact, bien sûr, 5 sur 5. Et puis, je vais foutre mes meubles là-bas dedans, l'exposition à Paris, au musée d'art décoratif, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit, où je fais un coup encore, et puis voilà, on verra bien. Et donc, l'exposition, la thématique était le rangement. Et idée saugrenue, je dis, mais le dernier rangement, c'est le cercueil, quoi. J'ai dit, ok, alors, je prépare des cercueils que je vais chercher à Paris, dans un centre, bien sûr, où il y en a en réserve au cas où. Les commissaires de l'exposition commencent à savoir que je traînais un petit peu, alors que ça avance, c'est que, oui, alors, et puis, d'une parole à l'autre, je suis obligé quand même de leur dire ce que je vais présenter. Et alors là, le tollé au bout, j'entends, on appelle monsieur Untel, on va réfléchir, me disent les... Mais moi, pendant ce temps, parce que l'exposition approchait, j'étais allé chercher mes cercueils avec des amis, dont Jean Cabu à l'époque, qui se mariait avec moi, et puis d'autres, et puis j'avais loué la bétalière du boucher, où il y avait marqué viande dessus, et où j'avais mis trois cercueils dedans. À l'époque, il y avait des capitonnés, des moins confortables, etc. Et j'avais foutu ça dans la voiture, on m'a dit surtout, ne te fais pas piquer en route, avec des cercueils dans la voiture, donc, etc. Et j'ai été obligé de mettre mes cercueils dans mon atelier, dans mon bureau, pendant toute la durée de l'exposition, pour faire croire aux gens qui m'avaient prêté les cercueils, qu'ils avaient été exposés. C'est dingue. Voilà le genre de conneries que j'ai été amené à faire plusieurs fois. Et voilà en quoi, pour moi, le design est important, parce que c'est aussi un amusement. Voilà.
Tout à fait, faut voir comme ça.
Moi, je le prends comme ça, parce que sinon, vous êtes à la barbe des chefs, à la barbe des industriels, à la barbe des producteurs. Alors qu'en fait, si vous n'avez pas avec vous quelqu'un qui partage pleinement vos idées, quelqu'un qui adhère à tout ce que vous êtes, à la dimension sociale, à la dimension économique, à ce que l'objet soit pas cher, qu'il soit fonctionnel, qu'il soit... La plupart des objets que nous avons aujourd'hui, et quand je veux jouer le ridicule, je le fais, voilà, aujourd'hui, je trouve que le mouchoir en fil que j'avais, gosse, entre le mouchoir du design, j'ai dit, on revient à mes grands-parents qui se mouchaient dans les doigts.
Avec le mouchoir en papier.
Le mouchoir en papier, vous vous mouchez dans les doigts. Enfin, ou tout au moins, je suis maladroit. Mmh. Avec ça, on se mouche moins dans les doigts. Mmh. Avec le mouchoir de Cholet.
Som en acte de protesta. Som mans fredes vora el foc. Som la veu de la revolta. Netes de la por i el dol, disfressades d'utopia, empatrem lluny del dolor, la recerca de la vida, a cavall de la raó. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc. Som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Coincideixen les mirades, fixades en l'horitzó. Potser avui farem victòria, potser enterrarem el plor. Som en acte de protesta, fora fort. Som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Doncs ens mantindrem alçades, ja no ens veurem de genolls. El sol mantindrà la flama, la lluna encendrà passions.
membres de la por i el dol. Som en acte de protesta.
Dissonance avec
Christian Rago
sur Radio Sainte-Afrique.
Donc un parcours intéressant parce qu'un parcours en marge, un parcours,
marginal, un parcours marginal, un parcours où je me suis fait plaisir, un parcours que j'ai partagé avec Nicole parce qu'il a quand même il a fallu partager. Et Nicole a une définition formidable. Nicole dit le dessin E-I-N est toujours en amont du dessin I-N. Et je retiens sa formule. Il faut d'abord l'idée, il faut d'abord la théorie, il faut d'abord une certaine philosophie, savoir à quel but on veut tendre pour soi et pour la société. Et à partir de là, je dirais, individuellement, le designer, et non pas le designer dans des bureaux serviles, le designer indépendant peut influer sur la société. Tout seul.
Quelles ont été tes créations ?
Oh oui, oh, ça devient prétentieux et nombriliste. Oh, mes créations...
En choisir deux ou trois et tu
oui,
nous
en choisir deux ou trois
qui te parlent.
Bon, les premières le furent pour ma famille, pour la famille, pour les enfants, car je partais du principe déjà qu'on ne pouvait vendre des produits que si on les avait expérimentés soi-même. Et aujourd'hui, je recommande encore, on le fait pas assez, à ce que les designers, avant de donner leurs dessins, de donner leurs idées, expérimentent ce qu'ils proposent. Ça, je pense que c'est une mesure qu'il faut respecter. Et sans cela, il y a, un danger à ce que nous ayons des objets comme on le voit aujourd'hui dans tous les sens qui ne servent à rien et qui sont, je dirais, un gaspillage écologique au sens où je l'entends. Voilà. Alors je vais te parler de deux choses. C'était sous un ministre de la Culture des années 71-72. Je ne saurais pas prononcer son nom parce que je collectionne peu de choses dont celle des ministres. Alors, je me rappelle qu'il avait eu une idée générale, en tout cas en tant qu'ancien petit garçon de l'école primaire laïque. J'avais retenu cette idée intéressante parce qu'il proposait qu'il n'y ait pas de devoir du soir. Et j'avais dit, c'est pas mal, cette idée, parce que quand même, on a une vie de jeu avec les parents plus grandes, on a le jeu, hein, l'école, on travaille. Hein, et puis, donc ça m'avait arrêté. Alors j'avais retenu cette idée, j'avais regardé ça un petit peu, et puis j'avais dit, bon, mais très bien, il n'y a plus de trucs à trimballer dans le cartable, machin. Et je suis parti sur l'idée de faire un vêtement qui m'avait inspiré un petit peu beaucoup de choses que j'ai pensées, ont été inspirées par diverses visions. Et quand je voyais les gens travailler sur la route avec des marques fluorescentes et tout ça, mais j'ai dit, mais les enfants, il faut qu'ils aient ça, il faut qu'on les voit, il faut qu'ils puissent... Alors j'avais fait une veste type, on va dire, veste de chasse, veste de ce que vous voulez, avec des grandes poches derrière pour mettre un peu de nourriture, un peu de choses. Et puis devant, il y avait la carte du métro, il y avait une poche pour je ne sais plus quel truc également, une fermeture éclair bien sûr, et puis des bandes pour qu'on voit le gosse de loin qui soit pas blessé.
Et ça n'a pas été accepté ça ? C'est un projet qui a été reçu
par... Non mais je vais vous dire, aucun de mes projets n'a été marchand. Aucun n'a été retenu pour être vendu. Des gens me faisaient croire que, mais c'était pour l'intérêt. Il le mettait, je l'ai retrouvé ensuite dans des... Non, je suis resté avec tous mes projets prototypes. Et c'est pas mal. Alors, un autre projet dont je voudrais parler, ça c'était le Cartabi, c'était du design. J'ai fait aussi, j'ai tenté plusieurs opérations, dont une m'a marqué personnellement parce que je m'y suis impliqué en tant qu'auto-constructeur réalisateur, c'est-à-dire que j'ai fait moi-même, j'ai fait un chalet de montagne en bois préfabriqué. Alors, je suis parti, j'avais gagné un concours dans une région, dans ma région de Bordeaux. Bordeaux est une ville pour moi très respectable par rapport à l'architecture déjà du 18e. Le port de Bordeaux et sa rive de la Garonne est magnifique. C'est la plus belle façade d'Europe du 18e. Bordeaux a une école d'architecture passionnante. Et j'ai eu la chance, en sortant de ma formation, je dirais, théorique à Bordeaux, très jeune, 14 à 17 ans, bien sûr, ensuite de travailler avec des architectes de l'école bordelaise comme ouvrier et d'exécuter pour eux certains travaux. Ce qui m'a passionné, ce qui m'a permis de rencontrer l'équipe Salier, Lajus, Courtois, architectes notoirement connus en France et à l'étranger. Et voilà. Alors, partant de là, ils organisent à Bordeaux un concours dans les années... les années 75, 76, par là, c'était la chambre de commerce. Bon, timidement, depuis Paris, j'envoie mon projet, mais je savais que là-bas, il y avait énormément de spécialistes. En fait, le thème était de faire des composants pour une construction, pour l'architecture, à partir des composants en bois de la forêt des Landes. Donc, il y avait eu avant moi des expériences extraordinaires. Et puis, j'ai envoyé cela, et j'ai retenu parmi d'autres, mais j'ai été retenu en ce qui me concerne pour un projet parce que il n'était pas révolutionnaire au sens formel du terme, mais les composants étaient assez intéressants. Je prévoyais en 1979, quand j'ai attaqué, de le construire, de l'auto-construire moi-même, c'est-à-dire que j'étais donc le créateur, j'étais le client, j'étais le réalisateur, etc., etc. Je cumulais toutes les casquettes. Et puis, j'ai surtout proposé que nous soyons en termes écologiques déjà. C'est-à-dire que j'ai utilisé les premiers pratiquement capteurs solaires français. Voilà. Et ils sont arrêtés il y a 2 ans, ils ont tenu 30 ans.
L'écologie, c'est quelque chose qui t'a beaucoup fait avancer dans ton métier, dans ta
profession. Oui, oui, mais l'écologie, j'étais écologiste sans le savoir. Hein. La seule carte, je dirais, en politique, en carté que j'ai eu 6 mois ou 1 an, c'était la carte d'écologie des Verts parce que j'avais eu la chance de rencontrer un ami extraordinaire politiquement. Je ne juge pas, mais moi, il me va le plus souvent. Noël, ma mère. Noël m'avait passionné par ces débats. J'avais signé son adhésion. Et puis, je me suis arrêté parce que j'aime pas trop les groupes.
Est-ce qu'il y a des lieux en France ou ailleurs en Europe où on peut voir tes prototypes? Est-ce qu'ils sont exposés dans des musées, dans des galeries?
Oui, j'ai une œuvre au Centre Pompidou à Paris, oui, qui a été retenue. C'est très drôle parce que nous avions fait ça, parce que je dis nous étions deux, parce qu'à l'époque je travaillais avec des étudiants, avec des deux, et puis bon, je les remercie, je les nomme, et donc Michel travaillait avec moi, c'est moi qui avait tiré le truc, parce que moi j'étais à l'époque un statut indépendant, et lui était salarié, mais bon, pourquoi pas. Et donc, on avait fait l'Alcôve 2000. Donc c'était en 1969, je l'ai exposé.
Ça s'appelait Alcôve 2000.
Oui.
D'accord.
Alcôve 2000. C'est-à-dire qu'on prenait un terme, bien sûr, ancien de la chambre à coucher, parce que, bon, c'était 69, 68, les lupanards, la chambre, moi, gosse, je ne pouvais pas aller à la chambre de mes parents. Et après, on s'est dévoyé un petit peu. Et donc, on avait dit, on va faire un plumard un peu drôle. Nous avons fait l'Alcôve 2000, donc... Alcôve, mot ancien, bien sûr, relatant le passé, nos parents, hein. Et puis 2000, la vision moderniste qui arrivait là-bas au fond. Parce que le design, moi j'ai adhéré au design. À notre époque, quand j'apprenais à l'école où je où j'appréhendais à l'école le terme design, c'était vraiment l'avenir, c'était ce mot, qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il cachait, qu'est-ce qu'il allait nous... Il était lié à plusieurs paramètres pour moi que j'ai développé après, soit en troisième cycle d'Urba, soit différent. C'était le futur vers l'espace. C'était une société, moi j'avais fait une thèse à l'époque, société éphémère, reprenant la propriété c'est du vol, et tout le monde devait pouvoir se mouvoir, pouvoir changer de maison, on a travaillé sur les gonflables, on faisait des structures gonflables, on était dans un autre monde. Moi aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir rétrogradé.
Donc, et l'alcôve 2000 représentait...
Alors l'alcôve 2000, elle était donc faite, elle faisait le sol, c'était de la mousse au sol, de la mousse contre les murs, de la mousse en plafond, et on couchait sur des matelas en mousse. C'est-à-dire c'était un lit composable, on pouvait les défaire. C'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est la maquette que j'ai à Mont-Laure, puisque l'original est au Centre Pompidou en pièces.
Les petits comites surgissant de l'ornière, les anciens combattants sous leur débilité, les soldats reconnus qui ne sont pas morts d'hier, le bon français qui vient se réhabiliter. Toute la funambule de la patrie française s'est mise au garde à vous tel un seul corps puissant, aux accents discordants de cette Marseillaise qui n'a pour canebière que des boulevards de sang. Ma Marseillaise à moi, c'est le bruit des fontaines. Ma Marseillaise à moi, c'est la chanson du vent. C'est le voile bleuté de beauté souveraine, quand la lune en tapant à la sorgue se vend. C'est l'appel du pollen à son flirt et la belle. C'est le miel du printemps dans les ruches d'amour. Les fleurs de l'amitié qui poussent encore belles, rafraîchies de rosée dans les parfums du jour. Des larmes tricolores jaillissent des paupières, quand s'élève un drapeau violet depuis longtemps. J'en sais de fous furieux du fond des cimetières, ne bouge pas Lazare, il n'est pas encore temps. Laisse-les se leurrer, se goinfrer d'uniforme, laisse-les ces voyeurs d'un pays décadent. Laurier leur beau drapeau sans chapeau uniforme, dans ma feuille de vigne je réinvente Adam. Car mon drapeau à moi, c'est ce bout de nuage, sans couleur, sans patrie, sans clairon, sans soldat. La première goutte d'eau tombait les soirs d'orage, ma terre troubadour qui fredonne tout bas. Car mon drapeau à moi, c'est un baiser de femme, la femme que la vie a nichée sous mon toit. Ma guitare enflammée quand je monte une gamme, et que les notes agiles caressent mes doigts.
Un tout petit mot sur Le Corbusier, puisque tu y as travaillé il n'y a pas longtemps.
Le Corbusier. Corbusier est très difficile d'évoquer ce personnage, ça va être un peu polémiste, mais je n'irai pas jusqu'à ce que certains auteurs très informés ont écrit, car moi je n'ai pas toutes ces connaissances et ce n'est pas mon rôle en tant que petit designer de vouloir parler de choses qui ne me regardent pas. Mais néanmoins, j'en tiens compte. Et c'est pourquoi j'ai suivi au cours de ma carrière les traces laissées par Le Corbusier, à savoir le modernisme. J'ai visité toutes les cités de Le Corbusier. Bon, Le Corbusier, c'est un personnage quand même qui était un grand artiste, un grand architecte, un grand designer à la fois. Alors, en ce qui concerne le travail, moi j'ai voulu rechercher quand même certains travaux qu'il avait faits à une époque intéressante. La cité radieuse, pour parler des cités que j'ai cherchées tout à l'heure, la cité radieuse a fait une réaction dans le monde paysan chez un personnage bézard qui était dans la Sarthe et qui un jour a eu le culot de dire à Le Corbusier « Vous devriez faire, après après vos cités industrielles, une ferme industrielle. Et Le Corbusier a joué le jeu, et en 1936, je crois, il lui a envoyé un dossier de ferme radieuse pour réaliser cela dans la Sarthe, à côté de Piacé, petit village au-dessus du Mans. Et, 36, les événements, le Front populaire, la guerre, la réalisation n'a pas été faite. Et j'avais entendu parler de ce projet en tant qu'étudiant, en tant que curiosité personnelle, et puis je cherchais où était ce projet, et puis un jour, par hasard, alors que j'étais en vacances en province, j'ai entendu à une émission de radio parler de cette recherche. Et aussitôt, j'ai pris contact avec la personne qui était... Alors, chose curieuse, cette personne était un garçon qui avait fait les Arts Déco, dont nous étions de la même lignée, et c'est lui qui a remis en mouvement cette histoire, qui aujourd'hui est devenue une exposition annuelle incontournable sur Le Corbusier. Et puis, en 2012, il m'a demandé si je voulais faire quelque chose sur Le Corbusier, ce qui, quand même, n'est pas facile, parce que j'ai hésité. En réfléchissant, j'ai dit je n'avais pas touché à l'architecture de Le Corbusier, parce que c'est pas ma tâche, mais je vais essayer de travailler sur ce qu'il a fait en design, car il a fait aussi du design, puisqu'il y a un fameux Longchair connu avec Charlotte Perriand, qui est reconnu mondialement. Donc, j'ai regardé les livres sur spécifiquement le design de Le Corbusier, livre espagnol qui a été fait aux États-Unis, que j'ai regardé de près, que j'ai retraduit, j'ai retrouvé les codes, et j'ai fait la voiture de Le Corbusier. J'ai refait la voiture de Le Corbusier qui avait été faite en maquette. Elle n'avait jamais été réalisée par Le Corbusier. Il a essayé de rencontrer les grands constructeurs de l'époque, voisins, Renault, tout ça. Ils ont refusé. Et donc, il n'a jamais pu réaliser sa voiture. Par contre, elle a donné naissance, d'après, c'est pas moi qui le dis, mais d'après ce que disent les connaisseurs, elle a donné connaissance, et j'en doute pas, à la Volkswagen. Avec le moteur arrière, avec le truc. Et quand on voit la voiture que Corbusier avait dessinée, que j'ai réalisée en maquette, en osier, parce que j'ai pas voulu mêler les matériaux techniques là-dedans, elle est en osier, elle est grandeur, elle est exposée là-bas, donc en permanence, à ce lieu, je dirais, originel de cette rencontre du paysan et de l'architecte. Et puis, voilà.
Dissonance avec
Christian Rago
sur Radio Centrafrique.
Maintenant, tu as le temps que tu souhaites pour pousser un coup de gueule, un coup de colère, un coup...
Oh, mon coup de gueule, c'est l'histoire qui est arrivée à mes amis, à nos amis de Charadly, le 6 janvier ou 7 janvier 2015. C'était des amis, on se voyait, Jean, Cabu, Maris, Oleski, tous ces gens-là qui ont disparu. Pourquoi ? Qu'est-ce que bêtise ? Si, je dirais. Pour les religions qui nous mènent par le bout du nez, qui ont toujours cherché à combattre, à se bagarrer, connerie de connerie. Voilà.
Un immense merci à Christian Rago.
Cette émission est à réécouter sur les ondes de Radio Centrafrique, ainsi que sur le site dissonance.ovh, où elle peut être téléchargée afin de l'écouter quand et où cela vous dit.
Salut
et fraternité.
Blesse mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême. Seul je me souviens des jours anciens et je pleure. Pareil à la